Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le jour le plus long, 75 ans plus tard, débarquement massif en Normandie, des présidents, des rois, des princes, des vétérans. Nous serons dans un instant sur la plage d'Omaha Beach, qui vit le plus gros contingent de soldats alliés débarqués le 6 juin 44. Ce matin, ce sont les visiteurs qui l'ont déjà prise d'assaut. Le D-Day en studio, qui attendez-vous ce matin Nicolas?
L'avocat François Sureau, Florence. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. On parlera donc du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Puis on fera un grand bond en avant pour parler aussi de la France, 75 ans après. Intervenez, appelez-nous 01 45 24 7000.
Elle prend le large, Valérie Pécresse quitte les Républicains. L'avenir de la droite se jouera pour elle à l'extérieur du parti où plus rien n'est possible. À la une également, Fiat retire son offre de fusion avec Renault, faute de réponse de la France. Les magasins New Look menacés de liquidation, faute de repreneurs. Et pourquoi le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine sera-t-il donné demain au Parc des Princes et pas au Stade de France ? Bien parce qu'hélas, les filles du foot ne sont pas assez populaires.
France Inter.
5 plages de sable blond, noir de soldats. Il y a 75 ans, 160 000 hommes venus d'Amérique et d'Angleterre. Ce 6 juin 44, il en est tombé 28 à chaque minute sous la mitraille des Allemands. 10 000 soldats morts ce jour-là, loin de chez eux. Les autres ont avancé et libéré la France sous commandement du général Eisenhower. Aujourd'hui, sa petite fille, Suzanne Eisenhower, est sur place en Normandie. Elle qui perpétue la mémoire de la plus grosse opération militaire de l'histoire contemporaine.
And impress upon young people their age that they too can change the world.
Je suis très impressionnée que des gens aussi jeunes à l'époque aient pu changer le monde. La plupart de ces hommes qui ont débarqué sur ces plages de Normandie étaient au tout début de leur vie et là-bas ils ont réalisé qu'ils pouvaient accomplir l'impossible. Je trouve ces lieux en Normandie vraiment très émouvants. Chaque année, j'emmène sur place un groupe d'étudiants et je vois combien ça les touche d'imaginer que des jeunes gens de leur âge ont fait cela, ont fait quelque chose de si important. Et peut-être que leur exemple peut donner aux jeunes générations l'envie un jour de faire quelque chose pour leur pays.
Suzanne Eisenhower au micro de Grégory Phillips, de ces hommes dont elle parle, de ces 160 000 soldats débarqués ce 6 juin 44. Ils ne sont plus que 482 encore en vie, dont 250 Britanniques qui ont embarqué sur un paquebot hier soir à destination des côtes normandes. Béatrice Duguay, vous êtes vous sur la plage d'Omaha Beach où plus de 34 000 Américains débarquèrent. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
La météo de ce petit matin du 6 juin 2019, Béatrice, est plus claire qu'il y a 75 ans.
Exactement, il fait un peu frais, mais il y a du soleil, mer d'huile quasiment, et Stewart britannique s'y trouve pour la première fois au pied de ce vaste cimetière américain, là où des milliers de soldats de l'âge de son fils ont sacrifié leur jeunesse en juin 44. Stewart ne s'attendait pas d'ailleurs à trouver une plage aussi merveilleuse, alors qu'elle incarnait évidemment l'enfer le 6 juin 44.
C'est vraiment difficile d'imaginer tous les bateaux sur l'eau et tout ce qui s'est passé. C'est vraiment difficile à appréhender. Le froid, la pluie. Certains n'ont même pas atteint le sable, n'ont même pas vraiment quitté le bateau. Alors la peur et tout ça, c'est bouleversant. Comprendre que cela a affecté tant de familles et de proches, c'est difficile, oui. Oui, sûr que oui.
Et voilà, Béatrice, pourquoi on a appelé cette plage d'Omaha Beach, Omaha, la sanglante. C'est aujourd'hui le début d'une longue journée de commémoration et vous nous dites qu'il y a déjà énormément de monde autour de vous.
Oui, comme tous les ans, en fait, il y a foule sur cette plage de Vierville-sur-Mer ce matin au pied du mémorial de la garde nationale. Plusieurs centaines de personnes de beaucoup de nationalités différentes qui viennent des camps de reconstitution tout autour. Elles sont venues former une chaîne humaine pour des instants de recueillement. Un prêtre a béni les flots tout à l'heure en présence du 116e régiment d'infanterie de la 29e division américaine. Celle précisément qui a été chargée d'attaquer à l'ouest de la plage le 6 juin 44. 75 ans plus tard, la leçon d'histoire est bonne à prendre pour Nicolas, parisien qui a amené ses enfants là.
C'est de leur expliquer que la folie des hommes peut entraîner ce genre de conflit et qu'il faut qu'on soit toujours vigilant par rapport à ça, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça revienne. Le montrer à des enfants, oui, parce que c'est la 4e génération. Et il faut que la 5e le sache, il faut aussi que la 6e le sache, il faut aussi que la 8e le sache. pour qu'on n'ait plus jamais ça, quoi.
Il y a 5 ans, des vétérans avaient participé à cette cérémonie-là. Un seul est attendu ce matin sur place.
Béatrice Duguay, merci, en direct de la plage d'Omaha Beach avec Eric Audra. 150 chefs d'État participeront à ces commémorations à l'invitation d'Emmanuel Macron, qui rencontrera tout à l'heure des vétérans français à Bayeux, avant de rejoindre Donald Trump au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Les deux présidents déjeuneront ensuite ensemble à Caen, alors qu'ils soufflent un air très frais sur les relations entre l'américain et le français.
Il est 8h05, elle a débarqué sur le plateau de France 2 hier soir.
Et son annonce est un nouveau coup de tonnerre dans le ciel des Républicains. Valérie Pécresse quitte le parti cadenassé de l'intérieur, dit-elle. Et la démission de Laurent Wauquiez n'y a rien changé il y a 3 jours. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Valérie Pécresse part donc avec armes et bagages en passant à l'occasion les Républicains au Karcher.
Oui, Valérie Pécresse qui s'affichait encore un mardi soir aux côtés de Ténor LR, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Christian Jacob, a dressé hier soir le portrait au vitriol de sa famille politique. Politique dénonçant, vous l'avez dit, le verrouillage du parti.
La refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur, elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur, il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait 3 ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement.
Et Valérie Pécresse n'épargne personne, ni la direction, ni les parlementaires, qu'elle accuse de ne pas vouloir ouvrir une réflexion sur la France d'aujourd'hui. Et la démission de Laurent Wauquiez dimanche soir, en effet, n'y change rien. Oui, il y aura de nouvelles élections, admet son entourage, mais ce sera de la tambouille. Laurent Wauquiez, nous dit-on, est encore capable de placer quelqu'un à sa botte en attendant de rebondir.
Alors le parti est moribond depuis les élections européennes. Le départ de Valérie Pécresse sera-t-il le coup fatal, Élodie ?
C'est en tout cas son pari, hein, désormais, capter l'hémorragie à droite en offrant une autre alternative que la REM. Plusieurs de ses proches ont déjà suivi le mouvement. Le député Robin Reda, sa porte-parole Florence Portelli ou encore sa vice-présidente à la région Alexandra Dublanche. Et on nous promet bien d'autres départs, notamment chez le millier d'élus que son mouvement libre revendique. Du côté des parlementaires, les réactions sont plus tempérés. Arnaud Viala, par exemple, plutôt critique sur la ligne du parti, s'est dit surpris hier soir. Surprise et colère aussi d'Aurélien Pradier, l'un des représentants de la droite sociale. « C'est une génération, me disait-il, qui meurt de ses propres haines », dénonçant, comme beaucoup de LR, un acte lâche répondant à une simple logique personnelle.
Élodie Forêt. À Lyon, ce fut un peu le jour le plus long pour Gérard Collomb. Perquisition à son domicile au petit matin, puis perquisition à l'hôtel de ville. Le maire de Lyon fait l'objet d'une enquête du parquet financier pour des soupçons de détournement de fonds publics en faveur d'une ex-compagne affectée à des postes municipaux.
Il est 8h08, Florence. Le temps des Français n'est manifestement pas celui des Italiens.
Fiat Chrysler retire son offre de fusion avec Renault. Le constructeur l'a fait savoir dans la nuit. Les conditions politiques ne sont pas réunies en France, selon lui. Bruno Le Maire, il est vrai, hier a souhaité un nouveau conseil d'administration mardi prochain, le temps d'un voyage au Japon, où Nissan n'est pas favorable à la fusion. Pourtant, rien de rédhibitoire pour Franck Daoud, la CFDT Renault. Les négociations auraient pu continuer si les Italiens n'avaient pas été aussi pressés.
On ne comprend pas et on peut se poser la question de pourquoi ce coup de pression. Est-ce que c'est pour revenir avec d'autres prétentions? Est-ce que c'est pour donner des signaux à d'autres prétendants? Ce comportement pose question dans le cas de traitement d'un tel dossier. On ne casse pas une négociation si ce n'est qu'on a d'autres choses à cacher peut-être. Nous, on reste persuadés maintenant que c'était surtout un projet capitalistique à court terme, qui plus est, le comportement dans la précipitation le prouve bien, à court terme, qui aurait eu un impact, c'est clair, sur l'emploi et qui pose question effectivement sur le projet industriel en tant que tel. Il va être difficile de reprendre des discussions avec un tel comportement, je pense. Nous, pour les organisations syndicales qui étaient la nôtre, on était déjà dans le regard aiguisé, je dirais, sur ce qui se passait. Là, pour le coup, on n'a pas du tout envie que ça reprenne sur ces bases aussi floues.
Voilà, Franck Daoud de la CFDT Renault avec Maxime Deb ce matin. Bruno Le Maire dit prendre acte du retrait de l'offre de fusion de Fiat Chrysler. Bruno Le Maire qui dit qu'un accord avait été trouvé sur 3 des 4 conditions posées par le gouvernement. Il restait simplement à obtenir le soutien de Nissan. Qui veut racheter New Look, les magasins de vêtements, filiale française d'une entreprise britannique? Apparemment, personne ne se bouscule pour reprendre ces 31 magasins de la marque et leurs 400 salariés. Les repreneurs éventuels ont jusqu'à demain pour se manifester. Sinon, ce sera la liquidation d'ici la fin du mois et la fermeture des magasins, Théophile Vareille.
Installé en France depuis 1988, New Look n'a pas réussi à résister à l'arrivée des nouvelles marques de prêt-à-porter bon marché.
55, 56 s'il vous plaît.
Karim Karaoui est le directeur d'un magasin parisien.
Tous les 6 mois, ils avaient une nouvelle stratégie, une nouvelle présentation, etc. On voyait que c'était n'importe quoi.
Alors qu'H&M ou Primark se sont imposés sur le secteur, New Look s'est dans le même temps déconnecté des attentes du marché français.
Les jupes écossaises qui cartonnent vraiment en Angleterre, chez nous c'est zéro. On s'est retrouvé avec plein de produits non vendus et à un moment donné on avait tellement des stocks en surcharge, ils ont dû reprendre la marchandise, on ne pouvait plus gérer ça en magasin.
Difficile de résister à la concurrence low cost lorsqu'on décide d'augmenter ses prix, s'interroge Stéphanie, vendeuse dans ce magasin.
Il y a des clientes qui sont très habituelles et qui passent et qui nous disent que depuis des années les prix ont augmenté. Tout ce qui est en jean, ils ont augmenté au moins de 10 euros.
La marque aurait pu néanmoins survivre, estiment les syndicats, mais depuis un an, la maison mère britannique a tout fait pour couler ses enseignes françaises, dénonce le délégué sud Laurent de Gousset.
On fera tout ce qui est en notre pouvoir de faire, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan syndical, pour que la direction anglaise soit obligée de prendre ses responsabilités avec le coût social qui nous attend.
À ce jour, aucun repreneur sérieux ne postule pour sauver les 31 magasins de New Look en France et ses 400 salariés.
Une manifestation des urgentistes cet après-midi à Paris. Leur mouvement ne cesse de s'étendre. 80 services d'urgence sont en grève dans les hôpitaux français. Et puis deux agents hospitaliers de l'hôpital Necker ont été suspendus à titre conservatoire, nous apprend France Info. Ils ont malmené et humilié une patiente mineure et handicapée dimanche dernier, jusqu'à l'intervention de deux autres employés de l'hôpital. Vous allez me dire que le temps ne s'y prête pas, mais Paris vous invite au jardin, dans ses parcs, avec des animations aux Tuileries avec des jardins éphémères. Le mois de juin, c'est le cœur de la saison des jardiniers, l'un des loisirs préférés des Français, urbains compris. Eux qui n'ont pas de jardin peuvent prendre de la hauteur pour cultiver leurs tomates. Reportage à la ferme Gendame sur un toit de Paris, signé Sébastien Sabiron.
J'ai des pommes de terre, j'ai un peu de fraises aussi, vous voyez, et un peu de tout là-dedans.
Le toit d'un gymnase dans le cœur historique de Paris, 800 mètres carrés, dont la moitié en parcelles cultivées. Marie-Ange, les mains pleines de terre.
Le fait de travailler dehors, c'est extraordinaire, c'est surtout ça qui me plaît, et après le goût des légumes, bien sûr.
Un goût incomparable, selon les adhérents de l'association, qui se relaient pour cultiver les parcelles individuelles ou collectives. Anne-Marie vient 3 fois par semaine.
Cultiver ses propres légumes, c'est un rapport à la nature qui est quand même très très différent. Il y a des enfants qui sont venus, c'était la première fois qu'ils mettaient les mains dans la terre. Pour moi, ça devrait être partout. Je pensais à des maisons de retraite, aux EHPAD, dans toutes les banlieues, plutôt que des pelouses qui font du bruit quand on les tond. Un potager, c'est formidable.
Les légumes sont vendus aux adhérents et aux habitants du quartier, en circuit court donc, mais ce n'est pas le seul bénéfice écologique. Clément Guiton de l'association Toit Vivant.
Ce type de jardin permet de réduire les îlots de chaleur en milieu urbain, surtout pendant les périodes de canicule. Lorsqu'il pleut, plutôt que d'avoir des toitures où l'eau ruissellerait et s'en irait directement, au moins l'eau elle est réutilisée par les végétaux directement. Et enfin, dernier point, on met un point à essayer de chercher des variétés presque oubliées, issues de semences paysannes, et ça permet de faire vivre la biodiversité cultivée.
Le Grand Paris compte aujourd'hui 100 hectares de façades et toitures végétalisées.
Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin grand comme un terrain de foot. Les Bleus n'y feront pas de jardinage. À partir de demain, ouverture de la Coupe du Monde féminine, France-Corée du Sud en match d'ouverture. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Tiens, mais pourquoi pas au Stade de France, Cédric Guillou ?
La Fédération française de football a choisi des enceintes à capacité modérée pour avoir des stades remplis, adaptés au football féminin. Roxana Maracine à nous, la ministre des Sports.
Je pense que tous les stades qui ont été choisis pour cet événement l'ont été un peu avec l'hypothèse malencontreuse qu'on ait peur de ne pas pouvoir les remplir. Donc on a choisi des stades un peu plus petits en se disant on veut absolument des stades pleins.
Brigitte Henriques est vice-présidente de la Fédération française de foot et du comité d'organisation et pour elle, pas question de revivre ce qui s'était passé il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde au Canada.
On a pu voir sur les précédentes éditions, notamment au Canada, que tous les stades n'étaient pas remplis et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de diffuseurs et de pays qui achètent les droits TV qu'on a vraiment une responsabilité de remplir les stades.
Et au départ pour Paris, c'était le stade Jean Bouin et ses 20 000 places qui avaient été proposées, avant donc d'être remplacées par le Parc des Princes et ses 48 000 places. Mais il n'a jamais été question du Stade de France. Noël Legrette, le président de la 3F, l'explique en quelques quelques mots.
Ah, je n'aurais jamais de ma vie discuté avec le Stade de France, ils sont trop chers.
Dans son histoire, le Parc des Princes n'a accueilli qu'un seul match de l'équipe de France féminine. C'était en octobre 1973.
Et pour tout savoir sur la Coupe du Monde féminine, allez donc jouer avec le quiz que vous propose franceinter.fr. En principe, il ne pleuvra pas sur Roland-Garros aujourd'hui, ce qui va permettre aux derniers quarts de finalistes de jouer leur match annulé hier. On suivra surtout Djokovic Zverev. C'est demain que ça se complique, Nicolas, avec le retard accumulé. Il faudrait jouer toutes les demi-finales femmes-hommes pour espérer boucler le tournoi dimanche. Sauf que la météo va nous dire, Marie-Claire Planchon, à de nouveau. Nouveau prévu de la pluie. Enfin, quelle heure est-il, Nicolas ?
Il est 8h15, Florence.
Et qu'est-ce qu'on fait à 8h15 depuis 15 jours ?
Le Livre Inter.
Mais oui, on parle du Livre Inter et on vous fait entendre les 10 auteurs des 10 ouvrages retenus en compétition cette année avant la réunion du jury dimanche, qui va choisir le meilleur, le Livre Inter 2019, que nous vous révélerons lundi matin sur France Inter. Voilà, voilà. Alors ce matin, c'est Serge Joncourt qui nous parle de son livre Chien loup, publié chez Flammarion, l'histoire d'un couple qui part en vacances dans une maison isolée, au plein milieu de la nature, sans connexion internet. Une maison qui a une histoire, une maison qui a connu, dans le passé, une autre histoire de couple.
C'est un roman qui essaie d'englober tous les genres, parce que nos vies sont faites de tous les genres. Et ce roman, je le voulais multiforme. C'est à la fois un roman historique, c'est à la fois un roman psychologique, c'est à la fois un roman, on peut dire, sentimental, parce qu'il y a deux histoires d'amour comme ça. Et c'est peut-être avant tout sur l'homme et la nature, ce rapport un peu discuté entre les deux. Et moi, j'avais envie de placer ces deux personnages, là, qui sont de parfaits citadins, on va dire, qui connaissent pas vraiment la nature, sinon aller de temps en temps acheter une salade au marché bio. Mais là, ils se retrouvent immergés en pleine nature. Et pour s'y plonger, c'est pas la peine d'aller au fin fond de l'Amazonie. Il suffit parfois d'aller dans ces petits territoires, ce qu'on appelle les zones blanches. C'est quand même un vrai problème, quoi. Enfin, en 10 ans, on est devenu tributaire de cet appareil rechargeable toutes les 24 heures. Je crois même qu'il y a plus de smartphones dans le monde que d'habitants. Et s'ils ne marchent plus, on est perdu. Donc moi, mes deux personnages, je les ai perdus exprès dans la nature pour qu'ils se retrouvent, on va dire.
Et il y a plus de smartphones dans vos poches, Nicolas, que de gens dans ce studio. Serge Joncourt, Chien loup, vous pouvez l'entendre en longueur sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.